Nostalgie, entre les notes.
Gilbert Montagnier.
Bonjour, bienvenue à tous dans Entre les notes. Alors aujourd'hui, on est entre les notes de Gilbert Montagnier. Bonjour Gilbert.
Salut Will, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, nous sommes entre les notes.
Alors là, on est à la période de Noël au moment où on enregistre. Et à Noël dernier, justement, vous nous aviez offert un album de comptines. Et je vous soupçonne de quelque chose, moi je vous soupçonne d'avoir vraiment adoré enregistrer ces comptines au premier degré, adoré toutes ces chansons-là. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas du tout. Moi, pour moi, de m'adresser aux petits-enfants, c'est un honneur, vraiment. Donc j'ai vraiment fait ça avec énormément de plaisir. Et vous savez qu'il y a des réactions superbes. C'est-à-dire qu'on me dit par exemple qu'il y a certaines crèches où les enfants refusent de commencer leurs activités avant d'entendre au moins une de mes comptines. C'est cute. Alors, il y avait 5 comptines qui existaient, une souris verte, Meunier Tudor, des choses comme ça. Et puis, il y avait 5 comptines que j'ai écrites spécialement. Donc ça, c'est une belle aventure.
Mais peut-être que plus tard, dans les futures générations, il y a des enfants, enfin, qui sont devenus adultes, qui diront, mais attendez, le mec qui chante « On va s'aimer », c'est celui qui fait « C'est l'heure de faire dodo ».
Voilà.
Ils vont être un petit peu étonnés.
Ouais, quel plaisir.
Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une vraie qualité musicale, par exemple, dans « C'est l'heure de faire dodo ». Je me suis dit, c'est marrant, avec d'autres paroles, ça pourrait être une autre chanson de Gilbert Montagnier. Et un lien que je fais entre les comptines et le reste de votre carrière, c'est votre période piano-bar.
Oui.
Un lien qu'on peut faire avec les comptines et le piano-bar, ce sont des morceaux. On se souvient pas forcément en fait de l'auteur.
Oui.
Ce sont des, comme dirait la chanson, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu,
oui.
Leurs chansons courent encore dans les rues.
Oui.
Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inspire, vous qui avez de forts refrains, est-ce que vous aimez l'idée que plus tard on se souvienne de vos chansons avant même l'artiste qu'il y a derrière?
Bah, faut être humble à ce sujet, hein. On n'est pas immortel, mais ça ferait quand même plaisir, effectivement, qu'après moi, on chante encore quelques de mes hits. Mais quand vous parlez de piano bar, c'est une période que j'aime beaucoup. Je déplore qu'en France, on ait de moins en moins de musique live dans les bars, dans les trucs comme ça, et c'est pas bien. Il faut recréer tout ça. Aux États-Unis, moi, j'ai beaucoup joué dans les piano bars. Et aux États-Unis, t'es obligé de connaître vraiment tout le répertoire américain parce que tu peux dire à un client qui te demande de jouer une chanson bah non je la connais pas vraiment, tu peux lui dire une, deux fois, si tu fais ça trois fois t'es viré.
Ah oui, il faut être un jukebox hein.
Ah oui, mais j'aimais bien.
Ben, c'est un vrai baptême de l'air pour un musicien. Vous faites partie des artistes français qu'on a la chance d'avoir, comme Paul Naref ou Scheller, les artistes français qui ont un fort bagage musical, qui ont une vraie connaissance. Vous avez étudié la musique classique.
Ouais.
Et en même temps, vous avez étudié la musique, voilà, dans la réalité de la chose, du live dans les piano-bars. Est-ce que quand on a un si fort bagage musical, c'est difficile d'écrire de la pop ? Est-ce que des fois, on n'a pas envie d'en faire trop ? Justement, d'en rajouter trop ?
Je pense pas. Moi, je me pose pas toutes ces questions. Moi, quand j'ai envie de composer, je me mets au clavier. Ça veut pas dire que je vais composer parce que la magie, en fait, il y a deux choses très magiques dans nos passions. C'est le moment où tu réponds au petit toc-toc sur la porte de ton esprit et tu commences à composer quelque chose, parce que ça, tu peux pas le prévoir. Et deuxième point, l'autre magie très importante, c'est vous, public. Vraiment, c'est magique pour moi de ressentir ça.
T'as quelque chose de mystique pour vous, la musique ?
La musique est le plus court chemin pour atteindre le ciel. C'est pour ça que les chanteurs les plus intéressants, c'est pas nous, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est extraordinaire. Moi, je flash sur les oiseaux. Dès que je peux, j'écoute vraiment les oiseaux.
Et c'est Michel Polnareff, justement, qui avait dit que la mélodie d'Âme câline lui avait été inspirée par le chant d'un oiseau.
Ça ne m'étonne pas.
Et personne ne me croit quand je dis que c'est un oiseau qui l'a composé.
Mais si, ça ne m'étonne pas du tout. Moi, j'ai écrit une chanson qui a fait un peu le tour du monde. Ça s'appelait The Fool.
Oui.
Et The Fool, je l'ai écrite de par le chant d'un oiseau.
Ah oui, pareil.
J'étais à la campagne, je n'avais pas d'instrument. J'ai entendu un petit oiseau, j'ai fait 3-4 premières notes et la mélodie m'est arrivée comme ça, immédiatement.
Justement, The Fool, vous étiez très jeune. Moi, j'ai été surpris. Toujours aimé cette chanson et quand j'ai appris que vous aviez 19 ans, au moment où l'avait enregistrée, je me suis dit c'est pas possible que cette voix-là ait 19 ans, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez pris des cours de chant ? Est-ce que ça s'est fait seul ? Comment est venue cette voix ?
Non, j'ai jamais pris de cours de chant. J'en ai pas, même pas un. Non. J'ai juste chanté, c'est tout.
Quand vous chantiez dans la rue, par exemple, aux États-Unis, vous avez dû envoyer de la voix quand même pour qu'on vous entende.
Oui, enfin ça n'a pas duré longtemps, heureusement, mais ça a duré quand même 4 jours qui ont été pour moi très très longs.
Ah oui.
Parce que c'était très humiliant d'avoir à faire la manche quoi, dans la rue. Là. J'avais une boîte de Nescafé et quelques pièces dedans. Et je m'en servais comme percussion et je chantais I'm a keyboard player, but there's no keyboard on the street. So I'm gonna try to make my voice sound like an instrument. Et je chantais mes problèmes, voilà. Et c'était pas bien, j'aimais pas ça.
Oui, ça doit être fatigant un petit peu.
C'est pas ça, c'est que c'est humiliant. Tu ressens la vibration des gens qui passent à côté de toi, qui te jugent plus bas que le sol.
Oui, on a peur de gêner ça. Vous avez bien aimé, vous, la mesure parisienne qu'il y a eu de faire passer des auditions pour faire jouer les artistes dans le métro. Comme ça, on sait là où ils sont. Les gens savent qu'ils sont là, pas pour rien, et ils se sentent mieux intégrés.
Moi, je trouve d'abord que c'est une très bonne démarche quand on donne quelque chose au public. Dans le métro, j'aime bien justement que les gens chantent ou jouent. Et effectivement, c'est pas restrictif de faire passer un petit test comme ça pour voir si au moins ça le fait, quoi. Tu sais qu'à Cuba, les musiciens de rue à Cuba, ils ont un prix de conservatoire, oui, avant de pouvoir le faire, vraiment.
Ah oui, d'accord. Bon, en même temps, les musiques cubaines, il faut avoir quand même un certain niveau pour les jouer, même en termes de rythme.
Ouais, mais la musique, c'est la musique, hein. Soit tu joues bien, soit tu joues pas bien.
Vous pensez que vous, c'est quelque chose d'inné?
Ah bah oui. Mais quelque chose d'inné dans le sens où moi, c'est pas moi qui ai choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisi. Mais après, il y a eu du travail, comme on a parlé, la musique dite classique, et puis j'avais toujours ce côté autodidacte, c'est-à-dire que je pouvais écouter un truc à la radio et le rejouer tout de suite vers l'âge de 7-8 ans. C'était pas un problème, quoi. C'était pas du tout un problème. Et ça m'a servi parce qu'à l'école, il y avait une répression. T'avais pas le droit de jouer de la soul, du jazz, du rock. Mais moi, je me mettais les surveillants dans la poche et j'en jouais les chansons qu'ils voulaient entendre. Ils me foutaient la paix. Comme ça, c'était bien.
On va parler aussi des réseaux sociaux. Vous avez été assez précurseur parce que dès 2009, vous avez dit que la musique, que l'industrie du disque était globalement à la ramasse et qu'aujourd'hui, ça allait se déplacer sur Internet. Et aujourd'hui, c'est un peu plus vrai. Maintenant, est-ce que vous voyez les réseaux sociaux et Internet comme un peu les nouvelles radios libres, un moyen d'être plus proche du public?
De toute façon, c'est évident que Internet et les réseaux sociaux, c'est ce qui compte maintenant. Mais plus que ça, on est à la ramasse par rapport à l'IA. Par rapport à l'IA, on n'a pas vu le phénomène arriver. Je comprends pas. Alors après, on crie au loup. Mais je suis désolé. Fallait être aussi visionnaire. Alors évidemment qu'on va perdre l'affaire. Ça va être différent. Parce que l'IA est en train de faire un chemin inévitablement. C'est normal. Il fallait prévoir.
Pour les gens de votre génération, je pense que ça doit être extrêmement étrange d'avoir un monde si différent entre ses 20 ans et ses 70 ans, et de pouvoir s'adapter. Et aujourd'hui, est-ce que l'IA, justement, ça vous apporte quelque chose dans votre travail de musicien?
Non. Pour moi, dans la musique, non. Je suis encore de la vieille école et je joue, tout simplement. Mais par contre, j'adore. J'adore l'IA.
J'ai fait un clip en IA.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup de ChatGPT et tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Et pour quelqu'un comme moi, par exemple, si j'ai un nouvel appareil et que j'ai pas la notice, je peux lui dire, voilà, dis-moi un truc. Alors, je fais une confidence. Je l'appelais Laurie. J'appelle Laurie parce que j'ai choisi une voix de fille. Et alors, elle me dit, oui, ta petite Laurie va te dire. Alors, elle me raconte où sont les boutons et tout. C'est Nicole qui aime pas ça.
Oui, non, je sais que Nicole est encore là.
Elle aime pas.
Et en général, vous êtes plutôt du coup excité par les nouvelles technologies. Vous restez toujours à l'affût de ce qui se fait.
Je suis très intéressé par ça. Oui, très intéressé par ça. Ça me parle. Je comprends tout ça très bien. Et notamment par la voiture autonome, qui est mon rêve, mon grand rêve. J'espère vivre ça très bientôt.
Et oui, parce qu'on va aborder le sujet du coup de la cécité, dont vous parlez souvent. Alors, on sait que vous avez énormément milité, fait avancer les choses à ce niveau-là, notamment au niveau de l'audiodescription. Et moi, il y a plusieurs questions qui me viennent par rapport à l'influence que ça a en fait sur le métier. Par exemple, on sait que beaucoup de musiciens sur scène ont tendance à se regarder pour se caler, même lors des jams. Les jams, pour ceux qui ne savent pas, c'est les improvisations entre musiciens. Est-ce que vous avez des techniques avec les musiciens, le fait que vous ne puissiez pas voir directement, est-ce que par exemple, il faut qu'ils restent au même endroit pour que vous sachiez où ils sont, pour leur faire signe? Comment vous vous adaptez à ça?
Mais je vous remercie de cette question, je trouve que c'est une bonne question. C'est moi qui les regarde, en fait. Moi, je leur dis, hey, tu regardes mes signes, et tout va très bien se passer. Et si tu rushes, ça veut dire si tu accélères dans le tempo, c'est pas moi qui vais te suivre. Hein. Donc, fais comme tu veux. Mais c'est ça. j'ai appris aussi à contrôler. Au début de ma carrière, je me laissais contrôler par le band. J'avais pas la poigne et la technique qu'il faut. Maintenant, ça se passe très bien. J'ai mes musiciens, je les adore. Et vraiment, on s'aime beaucoup et c'est bien. Mais pour répondre à votre question, mon cher Will, c'est moi qui les regarde. Voilà.
D'accord.
Oui.
C'est, du coup, vous avez les mêmes musiciens depuis un moment. Il faut confiance, une relation de confiance au fil des années.
Ah ben ouais, bien sûr. Je leur fais confiance aussi. On se fait confiance. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance. Mais de toute façon, le dernier mot, c'est moi qui l'ai. Ça, c'est sûr.
Et au niveau du style vestimentaire sur scène,
ouais.
Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des critères esthétiques, mais qui sont dus au textile, au toucher, à la forme?
C'est surtout ça. C'est surtout ça. La texture, ce que je ressens de ça, de la texture. Et puis, moi, je m'occupe du stock et Nicole s'occupe de la vitrine. On s'entend
bien. Oui, ok, je vois. Oui, donc, il y a vraiment des tenues dans lesquelles vous vous sentez mieux, plus à l'aise, en pensant aussi au regard des gens, du coup.
Alors, mon petit problème, c'est que moi, je me sens à l'aise tout le temps. Il n'y a pas vraiment d'endroit où je ne me sens pas. Et vraiment, sinon, je le dirais. Mais, on est dans un monde de voyants. Donc, c'est important que ça plaise aussi aux voyants, bien sûr.
Et pareil, par rapport au look. Moi, la dernière fois, je regardais un de vos lives à l'Olympia. Ouais. Je trouvais vos lunettes géniales. Je me suis dit, purée, la classe, quand même, un peu l'effet, John Lennon, Paul Naref, etc. Et j'en ai presque oublié. Le fait que c'est aussi quelque chose qui est associé du coup à la cécité. Est-ce que plus jeune ou même plus tard, vous avez eu ce recul de vous dire finalement ça peut être une force parce que cette silhouette avec les lunettes et les cheveux, ça devient quelque chose d'iconique, quelque chose auquel on m'associe. C'est bon en termes de communication de devenir un personnage?
Oh non, moi je me pose pas toutes ces questions-là. Non, moi je suis tout simplement. Mais par contre, quand j'étais beaucoup plus jeune, je voulais pas mettre de lunettes parce que pour moi ça me sert à rien. Franchement, pour moi ça me sert à rien du tout. Effectivement, en plus, mes yeux sont pas d'une qualité extraordinaire, donc c'est peut-être mieux comme ça. Puis maintenant, je suis habitué. Ce qui me branche vraiment, c'est les lunettes avec intelligence artificielle, qui sont en train de poindre. Et ça, il y a 2-3 marques maintenant qui ont ça. J'en ai essayé une et on est en train de regarder. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Qu'est-ce qu'elles apportent, ces lunettes?
Eh bien, elles apportent le fait que, hormis la musique que vous pouvez entendre dans les branches, tout ça. Surtout, c'est qu'on peut lui demander où est-ce qu'on se trouve, on peut lui demander de lire ce qu'il y a sur le mur, on peut lui demander de lire un menu, on peut lui demander de lire l'adresse d'un building. Non, ça va être fantastique, ça.
Ah oui.
Moi, ça me fait planer quand je pense à ça, j'adore.
Ça doit être de la science-fiction, quoi.
Oui.
Pour vous, il y a quand même un côté.
C'est maintenant. Vous savez que quand j'étais môme, moi, j'étais sûr qu'on aurait des petits téléphones portables comme on les a maintenant. Certes. Et à l'époque, on me prenait vraiment pour un allumé. Mais moi, je savais que j'étais allumé.
Du coup, ça a apporté ses fruits. Donc là, aujourd'hui, vous revenez quand même du coup, avec un nouvel album.
Ouais.
Est-ce que quand on a une grande carrière comme ça derrière nous, est-ce que le fait d'avoir des tubes comme ceux que vous avez, on se sent pris d'une plus grande liberté artistique?
Ah ben moi, en tout cas, je me sens très, très libre. Dans le sens, c'est pour ça que j'attendais maintenant avant de faire cet album. J'ai mis des années avant de vouloir faire un album inédit. Et là, je me sens très, très libre. Et puis, en plus, ça sert à ça. C'est le premier extrait. Et puis, ça me fait plaisir de l'accueil que le titre, il a après 8-10 jours. Ça fait plaisir, bien sûr. Je suis plus sous la pression de faire la course au hit. Mais si on veut bien me faire un hit ou deux, je suis pas contre du tout. Hein. On va pas faire l'hypocrite.
Ça fait toujours plaisir. Mais voilà, vous sentez peut-être un peu plus affranchi de commerce, en fait, qu'avant.
Ah ouais, non, moi, je pense pas à ce truc-là.
De toute façon, on sent que vous êtes libre parce que voilà, le fait de faire un album de comptines, même vous avez fait un album en hommage à Gilbert Bécaud.
Oui.
On sent qu'en fait, ce sont des projets pour vous faire plaisir et ramener les gens avec vous.
C'est ça. Finalement. C'est ça. J'ai fait aussi un album sur les reprises de La Motarde. C'était un très bon album, vraiment.
Oui, c'est vrai.
Même si ça n'a pas eu l'accueil que j'aurais aimé, mais moi, c'était un bon album et je suis très heureux de l'avoir fait, bien sûr.
Vous avez parlé d'accueils justement qui ont pu pas être à la hauteur de vos attentes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous profitez de la scène, parfois, pour mettre en avant des chansons que vous jugez être un petit peu passées trop inaperçues dans les charts?
Alors, le truc, c'est que tu ne peux plus, par exemple, faire une nouvelle chanson sur scène avant qu'elle soit sortie, parce que sinon, 30 secondes après, c'est sur les téléphones des gens avant qu'ils sortent de la salle. Donc, on ne peut plus faire ça. Par contre, effectivement, avec les compiles qui ont existé, les gens maintenant connaissent des chansons, comme tu l'as très bien dit, des chansons qui n'ont peut-être pas eu sur le moment le succès que j'aurais aimé, mais c'est génial parce que maintenant je peux leur chanter, quoi, c'est bien.
Il y a des chansons qui ont peut-être leur propre vie sur scène. Moi, j'avais lu ça dans la biographie de Scheller qui disait que les hits de Hit Parade et les chansons que les gens entendaient sur scène et dans les tournées, c'était pas forcément le même public, ni les mêmes attentes, et que certaines chansons avaient leur vie parfois purement scénique.
Oui, mais ceci étant dit, le public, il vient aussi pour écouter les chansons qu'ils connaissent, quoi, les chansons qu'on fait des hits.
Faut pas le décevoir, quoi.
Ben non, puis c'est le moindre des respects que tu peux faire, quoi. C'est de jouer les chansons qui t'ont permis d'être là où tu es, quand même, vraiment. Moi, je trouve que ceux qui diraient, oh, ben non, j'ai pas envie de jouer toujours les mêmes chansons, ben, faut faire autre chose, hein, c'est pas obligé.
Oui, vous voilà. Avez bien raison. Je suis d'accord avec ça. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Gilbert, pour cet entretien.
Mais vous savez que vous qui nous écoutez, c'est à travers un podcast, évidemment.
Oui, exactement.
Ben oui.
Nostalgie entre les notes.